Bonsoir mes frères et sœurs, et que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce pour vous de vous retrouver dans sa maison? Eh bien, je l'espère. Je vais vous citer un verset, ne le cherchez pas, c'est dans l'Ecclésiaste 7 au verset 29. Il est écrit ceci: « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais qu'ils ont cherché bien des détours. » Je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset, je vous le relis. Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits et qu'ils ont cherché bien des détours. Est-ce que vous le savez ça? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un petit dicton qu'on entend de temps en temps, mais c'est bien vrai, croyez-moi. L'homme est compliqué. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'homme est compliqué. Vous lui expliquez parfois les choses simplement et incontournablement, il va les compliquer. Alors c'est vrai que nous aspirons à certaines choses. Vous voudriez avoir certaines choses. Est-ce que dans votre vie, il y a des choses que vous aimeriez avoir? Est-ce que parfois vous dites, tiens, ça, j'aimerais en avoir, j'aimerais l'avoir, ça m'aiderait. L'homme, quand on réfléchit, quand on discute avec lui, souvent il veut de plus en plus de choses, pas forcément utiles. Et pourtant, il y a des choses que Dieu veut nous donner. Vous connaissez bien Matthieu 6, 33, ce fameux verset que l'on chante d'ailleurs régulièrement, on va le lire, parce qu'il correspond à l'introduction de notre méditation. Matthieu 6, 33, vous connaissez ce verset qui est une clé pour réussir dans la vie spirituelle. Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc il y a des choses dont on a besoin, des choses que Dieu donnera si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est important peut-être pour vous d'avoir un travail. Est-ce que c'est une chose importante d'avoir du travail? Eh bien oui, il y a des choses. La santé pour certains, est-ce que c'est important? Oui, peut-être des petits, peut-être 30 euros à la fin du mois en plus pour certains. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut être important pour certaines personnes? Eh oui, ça peut être important. Pour vous, c'est, vous dites, mais 30 euros de plus, 30 euros de moins, je m'y connais. Je m'en rendrai même pas compte. Mais pour certaines personnes, si elles obtenaient 30 euros de plus, eh bien ça suffirait pour qu'elles bouclent la fin des mois. Vous voyez comme quoi une chose pour quelqu'un peut être importante et la même chose pour une autre personne ne le sera pas du tout. Mais c'est une vérité que si nous sommes venus ce soir dans sa maison, c'est parce que nous voulons quand même comprendre cette vérité, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. D'autant plus que Dieu peut nous donner beaucoup de choses. Regardez avec moi un peu plus loin, dans 2 Corinthiens au chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, parce qu'on peut argumenter les deux vérités, enfin les deux possibilités, c'est qu'une vérité en vérité, mais quand même il y a deux possibilités. Est-ce que Dieu peut appauvrir quelqu'un? Est-ce que Dieu peut l'appauvrir? Oui, c'est écrit, Dieu peut appauvrir quelqu'un. Est-ce que Dieu peut enrichir quelqu'un? Ben oui, et regardez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, quand vous lisez le chapitre lanté, vous voyez que c'est un enseignement sur la façon et l'état d'esprit dans lequel on doit porter une offrande à Dieu pour répondre aux besoins des œuvres de Dieu, etc. Mais ce texte nous dit que Dieu peut nous combler de toutes choses. Peut-être il l'a fait. Peut-être que vous pouvez dire, oui, moi Dieu m'a comblé, je manque de rien, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Eh bien, voyez, cela nous prouve une fois de plus que Dieu peut nous combler en toutes choses. N'oublions jamais que c'est Dieu qui bénit. Nous l'oublions jamais. Toute grâce vient de Dieu. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez païen, n'oubliez pas que c'est Dieu qui bénit. Souvent, on oublie ça, mais c'est quand même Dieu qui bénit. Alors, si nous, d'un côté, je parle de manière générale, nous voulons de plus en plus de choses, qu'il faut faire davantage de choses, et vous voyez des gens, ils sont de plus en plus perturbés, et il faut, compte tenu de tout ce qui se passe, faire ceci, faire cela, et ajouter davantage, et faire des heures sup, etc., etc. Il y a des choses qui sont justifiées, mais vous voyez, d'une manière générale, que l'homme veut faire de plus en plus de choses, et que ça devient vraiment compliqué. Que l'homme est de plus en plus compliqué. Moi, je discute avec des gens, ils ne peuvent pas faire mieux pour se compliquer la vie. Mais ce que nous réalisons pas toujours, C'est que plus nous voulons faire de choses, plus nous voulons avoir, plus nous voulons obtenir, nous ne nous rendons pas compte que ce n'est plus Dieu qui contrôle notre vie. C'est nous-mêmes qui la contrôlons et nous sommes perdus et nous vivons vraiment dans la misère. Et ce sont tous ces mélanges qui font que pour beaucoup de chrétiens, maintenant je m'adresse aux chrétiens, la vie devient de plus en plus difficile et que des gens sont continuellement dans la confusion. Alors que la Bible, si on vient de voir que Dieu donne toutes choses, que Dieu peut nous donner vraiment plus de choses que nous en avons besoin pour notre bien-être, mais aussi pour que nous puissions aider les autres, nous voyons également qu'il y a des choses meilleures. Par exemple, si vous allez un peu plus loin dans les Hébreux, Dieu parle des choses les meilleures. Parce qu'il y a des choses pour nous qui semblent être bonnes, mais qui ne le sont pas. Et Dieu parle des choses les meilleures. Si vous lisez avec moi dans Hébreux, c'est ma petite introduction, Hébreux chapitre 9, 6, verset 9, Hébreux chapitre 6, verset 9. Vous voyez ce qui est écrit, je ne me trompe pas, la Bible parle des choses les meilleures. Voyez, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Donc, il y a des choses meilleures. Est-ce que vous les avez reçues? Est-ce que vous voulez les recevoir? Est-ce que vous êtes intéressé par des choses meilleures que Dieu a pour vous? Est-ce que vous les imaginez? Qu'est-ce que c'est qui est meilleur pour vous? Si vous deviez mettre sur un papier, « Ah, moi, ce qui serait le meilleur pour moi, ça serait ceci. » Nous serions certainement étonnés si nous faisions la liste de tout ce que les chrétiens considèrent comme étant les choses les meilleures. Au verset premier de ce texte, regardez ce qui nous est dit pour aller un peu plus loin. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, etc. Donc, qu'est-ce que dit ce texte? Que nous pouvons laisser les éléments et tendre à ce qui est parfait. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir ce qui est parfait pour vous? Moi, oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qui est important? Qu'est-ce que c'est que je dois faire? Qu'est-ce que c'est que je dois délaisser, etc. Alors ce soir, nous allons voir trois choses. C'est pour ça que j'avais demandé à Michael de chanter ce chœur, une chose que je désire ardemment. Il y a des choses difficiles. Si vous lisez ce texte d'ailleurs dans les Hébreux, là, au chapitre 6, il y a des choses difficiles à comprendre. Je ne sais pas si vous avez lu les Romains. Par exemple, l'Épître aux Romains est difficile à comprendre. Le livre du Lévitique est assez difficile à comprendre, etc. Il y a des choses difficiles. Mais il y a des choses dans la Bible, elles sont très simples. Il y a des choses, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la grosse théorie. C'est tout simple, c'est tout pratique. C'est une vérité de base. Et ce soir, nous allons voir trois exemples qui nous permettent, si nous les saisissons, d'avoir une vie pleine de succès. Vous savez comment je ne suis pas obsédé par le succès, parce que c'est très mal interprété, mais quand même, Dieu peut nous donner du succès. Vous le savez que Dieu peut vous donner du succès, et il faut quand même en parler. Il y a trois choses qu'on va voir. Une nous est enseignée par le roi David, une est enseignée par le Seigneur Jésus-Christ, et une vient de la bouche de l'apôtre Paul. Alors on va commencer par le premier qui vient de David, dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous connaissez le psaume 27? David est dans un moment il explique que la vie est faite de crainte et de combat et qu'on peut avoir même des ennemis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut arriver qu'on ait des craintes, des peurs, des soucis, des ennemis? Il explique dans ce psaume, lisez-le avec moi. Ces trois choses qu'on va voir, elles ne peuvent pas être plus simples. Personne ne pourra sortir en disant « j'ai rien compris ». Si vous n'avez rien compris, à ce que je vais vous dire, c'est que votre cœur est fermé, que vos oreilles sont fermées. Il ne peut pas y avoir plus simple. Écoutez bien. Psaume 27, verset 1er. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. » Vous pourrez lire la suite et vous verrez ce qu'il y a dans le cœur de David. Il y a dans nos cœurs certaines choses, que nous le voulions ou non, ce soir, dans notre cœur, il y a certaines choses. Et dans le cœur du psalmiste, on voit qu'il y avait, des ennemis. Il était là, il traversait un moment où il y avait des ennemis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réaliser que sa sécurité, la victoire, parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de victoire, ce n'est pas dans le combat. la sécurité et la victoire de David sont dans le fait qu'il a une véritable relation avec Dieu. Vous le relirez bien et vous comprendrez qu'il désire une chose, c'est d'être en communion réelle avec le Seigneur et de ne pas combattre contre la chair et le sang. Parce que croyez-moi que nous sommes forts pour combattre contre les gens, pour combattre contre la chair et le sang, comme dit l'apôtre Paul. Nous on fait des plans, on calcule, on réfléchit. C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on est capable des fois de faire des plans sur la comète, de dire comment je devrais faire, et dans cette situation, j'ai un conflit avec telle personne, alors je vais calculer tout ce que je vais lui dire. Regardez ce texte, il ne peut pas y avoir de plus simple. C'est pour ça que j'ai commencé avec le texte de l'Ecclésiaste qui dit, mais l'homme, Dieu a fait les hommes droits, et ils ont cherché des détours. Vous lirez le psaume 37, on n'a pas le temps de le méditer, et vous verrez que c'est David qui indique qu'il ne faut pas s'irriter, mais il faut faire confiance à Dieu. Ne t'irrite pas. C'est dit à plusieurs reprises. Pourquoi ? Mais parce que nous, c'est notre façon de faire. On a l'habitude de combattre. Alors il y a le bon combat de la foi, on ne va pas articuler là-dessus ce soir. Mais où que nous soyons, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous de savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu ? L'Église en est le même, mais après, individuellement, est-ce que c'est important de dire je suis dans la volonté de Dieu ? Eh bien, un des meilleurs moyens d'être dans la volonté de Dieu, quand ça commence à s'agiter de toutes parts, c'est de ne pas commencer à rentrer dans un combat qui n'en finira pas. Il va loin, David. Même si une armée se campait contre moi, on voit qu'il prend la décision de ne pas vouloir combattre par ses propres forces, mais qu'il sait que la victoire, la bénédiction, elle dépend de cette véritable communion qu'il va avoir avec son Dieu. Et il dit, je serai, regardez la fin du verset 3, parce que ce sont des clés, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. C'est beau quand quelqu'un peut dire, je serai plein de confiance. Il y a des gens, ils vous disent, oui, je prie 2 heures par jour. Mais je peux vous dire que ces mêmes personnes n'ont pas confiance en Dieu. Pourtant, est-ce que c'est beau de prier quand on le fait de tout son cœur ? Mais si vous priez sans avoir confiance en Dieu, c'est de la religiosité, c'est de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. En tous les cas, ça ne sert à rien. Dieu ne nous demande pas de prier 2 heures par jour, Dieu nous demande de lui faire confiance quand on prie et quand on ne prie pas. Et David explique qu'il a pris la décision d'être plein de confiance. Il le doit à quoi, ce plein de confiance? J'ai préparé toute une étude que j'aborderai une autre fois, sur toutes les fois où il est parlé d'être plein. Un plein pardon, une pleine paix, une pleine bénédiction, une pleine victoire. Ça revient dans la parole de Dieu. Et c'est très intéressant, parce que c'est la volonté de Dieu, qu'on n'ait pas une mini vieille victoire, un pardon, un pseudo-pardon. Dieu vous a pardonné, j'espère. Écoutez, je peux vous dire que si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, Jésus vous a pleinement pardonné. C'est important. Et David exprime cette bénédiction qui doit être la nôtre. Je serai plein de confiance. Le secret de notre victoire, il commence par désirer une chose. C'était un roi, c'était un homme qui pouvait, il aurait pu ne rien écrire dans la Bible, tellement il était préoccupé, il aurait pu être préoccupé par les retraites, par la pension, par les routes, par je ne sais pas. Est-ce qu'un roi du travail ? Est-ce qu'un roi ? Non, parce que nous on ne s'imagine pas toujours ces choses. Est-ce qu'un roi avait du travail ? Mais on ne peut même pas s'imaginer tous les conseils des ministres qu'il devait avoir. Mais lui, il dit, je veux une chose, je désire une chose, elle est là, cette bénédiction. Il est plein de confiance parce qu'il a choisi de désirer une chose. Il sait, David, que le secret de la victoire sera toujours dans cette relation qu'il aura avec Dieu. Oui, on le relit, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. On a parlé tout à l'heure des choses les meilleures, de toutes ces choses que les gens cherchent, alors que Dieu leur a dit, mais si tu cherchais d'abord le royaume, toutes ces choses te seront données. Et je vois combien je vois de chrétiens, et ils cherchent à droite, et ils veulent ceci, et ils veulent cela. Des choses en plus que Dieu veut leur donner. Et Dieu pourtant n'arrête pas de nous répéter, mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et je m'adresse à chacun d'entre nous. S'il y a des choses qui vous préoccupent, ne vous accaparez pas de ces choses. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est juste de ce qu'on est en train de faire ce soir. Vous auriez pu aller au cinéma, vous auriez pu aller au restaurant, vous auriez pu aller vous balader, personne ne vous en empêche. Mais vous avez dit non, je veux aller dans la maison du Seigneur, j'ai besoin d'apprendre certaines choses, je veux avoir une vie de victoire, je veux arrêter moi aussi de combattre toutes ces difficultés autour de moi. Je veux moi aussi désirer une seule chose et je la demande à l'Éternel. On peut demander à l'Éternel cette chose. Ce sont des choses que Dieu ne vous donnera pas. Mais David, intelligent, demande à Dieu, il demande à Dieu, oui, je veux la désirer. Parce que vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous aimez la peinture, vous allez peindre. Si vous désirez la présence de Dieu par-dessus tout, vous allez avoir besoin de vous retrouver dans la présence de Dieu. C'est son désir. Alors, ce n'est pas parce qu'on va 2 heures à l'église que nous contemplons le Seigneur. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre jardin, dans votre maison, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre voiture. Comment vous êtes ? Est-ce que vos yeux sont sur le Seigneur ? Ou est-ce que vos yeux sont sur Dieu que le temps des réunions ? Il faut répondre. Est-ce que vos yeux sont fixés sur Dieu que pendant quelques heures par jour ? Si vos yeux sont fixés sur Dieu que le temps de votre culte personnel, laissez-moi vous dire que vous ne pourrez pas chanter que je suis plein de confiance. Quelqu'un qui est plein de confiance, c'est quelqu'un qui dit oui, j'ai plein de travail, j'ai plein d'occupations, j'ai plein de combats, j'ai plein d'ennemis. Si une armée se campait contre moi, moi je prends la décision. Je sais où est le secret de la victoire, c'est de demeurer en Christ. Vous connaissez Jean chapitre 15, eh bien, mes frères et sœurs, souvenons-nous que si nous voulons vivre dans la victoire, nous devons demeurer en Christ. Il n'y a que 3 textes dans la Bible où on voit une chose, on va les voir. Le premier est celui-ci, je désire une chose. La désirez-vous cette chose, de demeurer dans le Seigneur continuellement, afin que vous n'ayez pas à vous battre, à vous débattre, mais à être plein de confiance pour laisser Dieu vous bénir. Mais nous ferons une exhortation, mardi soir peut-être, ou un dimanche, sur tous ces textes, où il est parlé d'une pleine. Une pleine récompense, une pleine paix, une pleine joie. C'est quand même écrit dans la parole de Dieu. Le deuxième texte, c'est dans l'évangile de Luc, et nous voyons le deuxième passage, où il nous est parlé d'une autre chose importante. D'une autre chose importante, ça se passe dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare, cette maison où Jésus aimait se retrouver, une maison où Jésus a passé certainement des moments merveilleux à se retrouver avec des amis. C'était une maison que Jésus avait choisie sur la terre parce qu'il y avait des amis avec qui il pouvait partager des bons moments. Donc, regardez-moi ce texte, Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Voilà dans le deuxième texte où il est parlé d'une autre chose absolument importante. Jésus va dans cette maison qui appartenait à Marthe. S'il est parlé, c'était la maison de Marthe et pas de Lazare. C'était que Marthe devait être l'aînée. Donc cette maison lui appartenait. C'est elle qui avait le devoir de s'en occuper. Donc Jésus va avec les 12 dans la maison de Marthe. Ils étaient au moins 13. Peut-être y avait-il des épouses ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Alors imaginez-vous tant de personnes qui arrivent tout d'un coup dans cette maison et Marthe, bien sûr, elle a le souci de bien les recevoir. Est-ce que c'est bien ? Monsieur, comment vous aimez recevoir des gens en fait ? Est-ce que vous recevez des gens dans votre maison ? J'espère que vous le faites. Que Dieu vous a donné un appartement, une maison, serait-il petit, et que de temps à autre, vous aimez recevoir. Je crois que c'est bien de penser à accueillir des gens. Moi, j'ai vu plusieurs jeunes ici qui ont été bénis, car quand ils faisaient leurs études, eh bien, le dimanche, il y en avait 2 ou 3 qui allaient manger chez une sœur, chez un frère, chez une famille, et qui passaient des moments avant de revenir à la réunion. Et quand ils sont partis, ils me disent « Ah, je me rappelle comment j'ai bien été accueilli dans cette maison parce qu'on m'invitait à manger, etc. » Donc cette sœur était, cette femme était l'aînée, elle devait prendre des décisions. On voit que c'était une femme qui était active, qui aimait les affaires. Bon, quand Jésus est arrivé, elle avait le souci de bien les recevoir. Il fallait les faire manger. C'est sûr que si demain on arrive avec une quinzaine d'anciens chez vous, et si on vous dit voilà, on a faim, il y a nos enfants qui vont arriver dans demi-heure, voilà, on a faim. On n'est que 36, faites-nous à manger. Bon, je pense que certaines sœurs vont avoir une attaque. Mais Marthe était occupée, accaparée par le souci de bien recevoir, ce qui est excellent. Ne faisons pas dire non plus ce qui n'est pas écrit. Et Marie, elle, n'était pas impressionnée par les activités. Elle était captivée par la présence du Seigneur Jésus qui venait dans sa maison pour prendre un repas. Et voilà que les choses se sont mises en place. Vous connaissez l'histoire, on vient de la lire. Donc au bout d'un moment, Marthe était excédée de devoir faire tout, pour ainsi dire. Peut-être elle avait une servante, j'en sais rien. Apparemment, c'était des gens assez aisés. Mais quand même, à un moment donné, quand on en arrive à ce stade où on se sent le devoir d'aller voir le Seigneur pour lui exprimer cette peine que l'on a, donc Marthe va commencer à dire « c'est pas possible, mais c'est pas possible ». Elle voit pas le boulot qu'il y a, elle me laisse toute seule pour servir, ça, elle a rien compris. Et il y a des gens comme ça qui pensent pareil. Peut-être « tiens, ce chrétien, il fait pas ci, il fait pas là ». C'est difficile d'évaluer le travail que l'on doit faire pour Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important que l'Église, mais aussi individuellement, nous sachions ce que Dieu nous demande. Je me souviens de cette sœur qui me dit « oui, je ne comprends pas, moi je vais visiter Madame Untel, personne d'autre y va, je ne comprends pas ». Mais je dis parce que si on était 300 à aller voir la même personne, peut-être que ça serait un peu délicat. Il vaut mieux que chacun demande quelle est la personne que je dois aller visiter. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'Église, ça se fait naturellement. Il y a des personnes qui vont visiter tous les 15 jours telle personne. Un autre couple va visiter telle personne. Et c'est bien, chacun doit faire ce que Dieu lui demande. Bon, quand vous décidez d'aller dire au Seigneur quelque chose, c'est que vous êtes sûr que vous avez raison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire certaines choses au Seigneur? Tu dis, écoute Seigneur, j'ai vraiment quelque chose à te dire. Allez, dites-moi la vérité. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des fois besoin de dire certaines choses au Seigneur? Il les sait déjà, mais on a besoin de les lui dire. Quand on va dire quelque chose au Seigneur, contre quelqu'un, est-ce que ça peut arriver? Ben oui, c'est qu'on est sûr de son coup. Quand Marthe va voir au Seigneur, en plus elle ne fait pas un reproche qu'à Marie. À qui elle fait un reproche également? Au Seigneur. Et c'était quelqu'un, parce que quand il est dit dans la Bible que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. C'est écrit spécifiquement. Donc c'est une femme qui était excédée de voir que Marie, alors qu'il y avait un besoin urgent, restait là, assise, sans rien faire apparemment. Et elle va s'autoriser à dire au Seigneur une chose, moi qui quand même est difficile, vous avez vu, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour t'aider. Elle fait aussi un reproche au Seigneur, que vous le vouliez ou non. Quand on se permet d'en arriver là, c'est qu'on est sûr qu'on a raison. Un chrétien intelligent, quand il en arrive là, c'est qu'il est sûr de son coup. Mais n'oubliez pas que le Seigneur, il sait. Il sait, le Seigneur, exactement ce qu'il doit faire et ce qu'il a à nous dire. Enfin, tout ça pour expliquer que même si c'est une femme qui aimait beaucoup le Seigneur, mais comme Job aimait énormément le Seigneur. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et pourtant, quand vous voyez tout ce qu'il a pu dire dans la souffrance, Dieu ne lui a jamais reproché, parce qu'il ne remettait pas en question la souveraineté de Dieu. Donc cette femme, dans sa souffrance, dans son écœurement, elle était sûre qu'elle avait raison. C'est pour ça que le Seigneur, il sait quand on lui dit quelque chose. Après, quand on est seul, quand on est ensemble, veillons à ne pas à déverser certaines choses. Il y a des choses, je crois, qui doivent être dites ensemble. Il y a des choses qui sont personnelles, qui doivent être dites quand on est seul avec le Seigneur Jésus. « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Donc, quand on parle comme ça, on s'attend à ce que Dieu nous défende. Est-ce que c'est pas vrai? Elle était sûre qu'elle a dû se dire, « Eh bien, Marie, elle va s'entendre dire la vérité par le Seigneur Jésus. » Lui-même, je suis sûr qu'elle espérait, c'est obligé, c'est logique, avoir la bénédiction du Seigneur, l'approbation de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va la réprimander à la place. Vous l'avez vu comme moi, le Seigneur va la réprimer. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup de choses. Comme disait M. Galifot samedi au mariage de Leslie et de Lucas, il y a des pasteurs qui disent « Tu t'inquiètes pour peu de choses ». Et c'est vrai que c'est écrit pour beaucoup de choses. Car servir Dieu, servir les frères et les sœurs, c'est quand même beaucoup de choses. Et je crois que l'on doit s'appliquer à savoir ce que Dieu nous demande. Moi, je plains vraiment les chrétiens. Je les plains vraiment. Parce que ça va mal se passer. Qui ont une foi morte ou une foi inutile. Franchement, je les plains. Chrétiens qui font rien. Parce que quand on voit quand même les textes bibliques, comme on l'a vu mardi dernier, ça fait quand même réfléchir de ceux qui ont enterré les talents. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Donc cette chose-là, elle est nécessaire pour nous aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui peut dire « Ah non, non, c'était pour Marie. » À moins d'être vraiment profondément tordu, mais cette chose-là, elle est nécessaire pour chacun d'entre nous. C'est un enseignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas théologique, ce n'est pas compliqué, c'est d'une simplicité totale, une chose est nécessaire. Alors, premièrement, une chose est sûre, c'est que Marthe, malgré le fait qu'elle faisait la volonté de Dieu, elle s'agitait, elle s'affolait, elle commençait à s'inquiéter, puisque Jésus lui dit « tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ». Une chose que nous devons comprendre, c'est que quand on sert Dieu, on doit le faire non pas dans l'agitation, mais dans la paix. Ça, c'est un des premiers enseignements qui ressort gros, mais comme une maison dans ce texte, c'est que quoi que ce soit que Dieu nous demande, il faut le faire dans la paix. Je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé, mais ne le faites pas dans l'agitation. Nous devons tous avoir une activité. La Bible parle que l'homme doit avoir une activité, que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et je le répète, vous qui êtes venus ce soir dans la maison du Seigneur, quelle est la chose que Dieu vous demande? Si vous ne l'avez pas découvert, ça va se présenter. Dieu utilisera quelqu'un, sa parole, son esprit, un don spirituel, un pasteur, une prédication. Mais une chose est certaine, vous devez savoir quelle est l'activité que le Seigneur vous demande. Tous, ce n'est pas compliqué. Mais, quelle que soit l'activité que le Seigneur me demande, aucune activité ne doit me tenir éloigné, loin du Seigneur. Je discutais avec un pasteur dernièrement qui me disait « j'ai pas le temps de lire ». Je n'ai pas le temps de prier. Eh bien, voyez, c'est une grosse, grosse erreur. Parce que, quelle que soit l'activité à laquelle Dieu nous appelle, nous devons toujours faire en sorte de nous retrouver à ses pieds. C'est une chose nécessaire. C'est la chose nécessaire qui passe avant même l'activité. Est-ce que c'était important de préparer un repas au Seigneur? Dites-moi, est-ce que vous recevriez demain le Seigneur Jésus et les 7 ou 8 apôtres dans votre maison? Est-ce que ça serait important? Eh bien, pourtant, bien sûr, je sais que le repas serait impeccable, ça c'est clair. Mais il y a une chose encore plus importante que de donner à manger au Seigneur Jésus, de faire les œuvres de Dieu, c'est de vous tenir d'abord à ses pieds. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Dieu a permis cette situation, c'est extraordinaire. Et voilà pourquoi tant de chrétiens sont dans l'agitation, sont inquiets, parce qu'ils servent Dieu, mais ils ne se tiennent pas à ses pieds. Et comme je l'avais lu, comme je l'ai souvent dit, on peut servir Dieu de plus en plus et le connaître de moins en moins, parce qu'on ne se tient pas à ses pieds. Et quel que soit ce que vous faites, votre travail, vos occupations, votre programme, vos études, vos loisirs, toutes ces choses-là ne doivent pas vous empêcher de vous tenir au pied du Seigneur. Moi, j'ai vu des étudiants, mais monsieur Gros, je fais médecine, je n'ai pas le temps de prier, je viens juste au culte, et encore, quand j'ai le temps. Eh bien, voyez, tout ça, ça paraît très studieux. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, ça ne pourra jamais être en accord avec cette parole de Jésus qui dit « Il y a une chose qui est nécessaire, la chose qui est prioritaire, c'est de vous tenir à ses pieds. » C'est la bonne part, vous l'avez lu avec moi, une seule chose est nécessaire, verset 42, « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Vous voyez, pourquoi? Parce que bien sûr que Marie n'était pas en train de faire la paresseuse. Marie était en train de recevoir la pensée de Dieu. Jésus était en train de travailler en elle pour que Marie puisse faire à son tour les œuvres de Dieu. Et on le voit plus loin, c'est la seule qui a embaumé Jésus pour sa sépulture. Elle l'a fait de son vivant, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, alors que je pense aux autres Maries, vous savez, de Magdala, qui ont voulu l'embaumer après sa mort. Est-ce qu'elles ont pu le faire ? Vous vous rappelez le jour de la résurrection ? Vous rappelez, elles avaient pris des aromates pour embaumer le corps du Seigneur et s'inquiéter, comment on va faire pour ouvrir le tombeau ? Est-ce qu'elles ont pu l'embaumer ? Non, vous voyez, elles n'ont pas pu. Tandis qu'elle, elle a pu le faire. Pourquoi ? Parce que c'était pour Dieu qu'elle voulait le faire. Mais elles n'ont pas pu, ça ne servait à rien. Et comme beaucoup de gens d'ailleurs, après l'enlèvement, voudront faire des choses pour Dieu, ça servira plus, ça sera trop tard. Il faut les faire avant. Et Marie n'était pas en train de buller, Marie était en train de recevoir la pensée de Dieu pour apprendre à faire les œuvres de Dieu. J'espère que c'est ce qui est en train de se passer, que nous sommes en train de nous remettre en question et de nous dire, mais oui, moi aussi, je veux découvrir quelle est la pensée de Dieu. Si vous l'avez découvert, tant mieux. Si vous savez, voilà, je sais ce que Dieu me demande. Moi, Dieu me demande de m'occuper des enfants. Il y a des enfants, il y a des adolescents. Des fois, les animateurs, eh bien, ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas assister au culte comme ils le voudraient. Et des fois, ils sont obligés de faire 2 leçons de suite, 3 leçons de suite. Pourquoi ? Parce qu'il manque des animateurs. Et on s'est engagé à nourrir ces enfants. Peut-être c'est ce que Dieu vous demande. Vous occupez des ados, vous occupez des enfants, vous occupez d'une chose ou d'une autre. Mais une chose est sûre, si vous vous tenez au pied du Seigneur, vous aurez une activité qui va vous bénir et que vous pourrez faire vraiment dans le repos. Oui, c'est une bénédiction. La chose nécessaire, la chose importante, c'est que vous ayez cette part avec le Seigneur. Vous vous rappelez quand Jésus a voulu laver les pieds aux apôtres ? Et que Pierre a dit « Non, 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 pas toi, tu ne me laves pas. » Et Jésus va lui dire « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Et nous devons nous laisser continuellement laver par l'eau de la parole afin que nous ayons cette part. Ça n'avait rien à voir avec le salut, mais c'était une communion sur la terre pour pouvoir faire les œuvres de Dieu. Et moi, je vous avoue, en tant que pasteur, déjà en tant que chrétien, je le suis, mais en tant que pasteur, je suis profondément peiné. Je me répète, quand je vois la quantité de chrétiens qui n'ont pas de part de communion avec Dieu parce qu'ils se tiennent éloignés de ses pieds, pour reprendre l'expression de cette affaire. La troisième chose, elle est exprimée par l'apôtre Paul. Est-ce que Paul avait été actif ? Tiens donc. Vous voyez, j'y pense maintenant, mais si on prenait le comportement de Marie là, au pied du Seigneur, et la vie de l'apôtre Paul, est-ce que la vie de l'apôtre Paul était remplie d'activité d'après vous ? Mais c'est vraiment impressionnant comment l'apôtre Paul a été actif pour le Seigneur Jésus. Mais justement, la vie de l'apôtre Paul était remplie d'activités qu'il devait faire parce qu'il était en communion avec Dieu. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Alors, dans sa vie, il y avait un but. Alors, on va le lire. Dans les Philippiens, on voit cet homme qui parle des choses, de toutes les choses qu'il avait avant, d'une manière religieuse. Il en avait fait. Si vous regardez la vie de l'apôtre Paul avant sa conversion, c'était un religieux fanatique. C'est lui qui le dit. Hein. Philippiens chapitre 3, on va commencer par le verset où il nous parle de toutes ces choses qu'il était, qu'il avait, ses diplômes, etc. Regardez comment il en parle. C'est vraiment bien de le lire. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Donc, ça, il parle de ces choses avant la conversion. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et regardez, il va encore plus loin. Je les regarde, non mais je ne sais pas si vous lisez comme moi, comme de la boue. Des choses qui font le prestige des hommes. Lui, il dit, mais toutes ces choses, je les considère comme de la boue. La boue, je veux dire, c'est la chose, une des choses les plus dégoûtantes qu'on ait envie d'avoir. Afin de gagner Christ. Alors, on continue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient de la loi, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce texte, si vous le regardez bien, est vraiment très favorable à la méditation que nous sommes en train de partager. Comment il voyait les choses? Comment vous voyez les choses? Les choses de la vie. Eh bien, lui, il est considéré comme de la boue. Il y a des choses, ce n'est pas la peine de les considérer. Ce n'est pas la peine de faire ci, d'en faire une grosse... Ce qui est important, c'est de gagner Christ. Ce qui est important, c'est d'être fidèle jusqu'au bout. Parce que là aussi, combien nous envoyons de gens prendre le baptême et qui, quelques mois après, comme dit Jésus, à cause des tribulations, à cause d'une difficulté, ils trouvent une occasion de chute. Il croit pour un temps. Moi, c'est une parole qui m'a brisé. Je vous l'ai dit au début que je suis arrivé à Sainte-Agne, quand Jésus a dit « il croit pour un temps » et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Et il y a des gens, un rien, une difficulté, une contrariété, un problème, ou dans l'église, dans la famille, dans le travail, dans la vie affective, dans un domaine ou dans un autre, voilà, ils y trouvent une occasion de chute. Paul, il est en train de dire, écoutez, moi, toutes les choses, c'est secondaire. Il y a une chose que je veux, c'est que je veux être debout quand Jésus reviendra me chercher. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de bien commencer, c'est de bien finir. Hélas, si les chrétiens de Toulouse qui ont expérimenté la grâce de Dieu étaient dans les églises aujourd'hui, il faudrait certainement 20 ou 30 églises, et certainement plus grandes que la nôtre, pour contenir tous ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Ce qui fait que ce qu'on est en train de voir tient vraiment debout, de pouvoir dire, mais moi, il y a des choses, eh bien, je vais les mettre de côté, elles sont secondaires, et je veux une chose, je veux être prêt pour le jour où Jésus viendra me tenir, me chercher, parce qu'il en parle. Que lui, il veut pas avoir prêché aux autres et être désapprouvé quand Jésus va revenir nous chercher. Parce qu'on n'est pas béni parce qu'on prêche, on est béni parce qu'on est fidèle à Dieu jusqu'au bout. Oui, il veut gagner Christ. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je fais une chose. Voyez mes frères et sœurs, c'est simple ce que l'on vient de voir ce soir. Ça tient à désirer une chose, à considérer une chose comme étant nécessaire et puis à faire une chose. Je veux suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Je veux être en communion avec lui jusqu'à la fin, car tous ces textes nous parlent de la communion avec Dieu. Ce soir, vous êtes ici, dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi nous sommes dans la maison du Seigneur? Pourquoi on y est? Est-ce que vous dites, oui, moi je veux me recevoir de la nourriture, car je veux persévérer jusqu'à la fin. C'est mon objectif, remporter le prix de la vocation céleste. À quoi ça sert d'avoir des diplômes? Serait-ce même des diplômes en théologie? À quoi ça sert ces diplômes si on ne persévère pas dans les voies avec Dieu? À quoi ça servirait? À quoi ça sert que j'ai un diplôme en grec, en hébreu, en ceci, en cela, en théologie? À quoi ça sert? À quoi ça servirait si vraiment je n'ai pas ce désir de marcher avec Jésus jusqu'au bout dans la gloire? Oui, et il faut que les chrétiens comprennent qu'il y a quelque chose d'important que Paul avait compris, c'est qu'il marche, en renonçant à lui-même. Ce qui est important pour lui, c'est la croix, on le voit, vous avez lu avec moi. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu lui demande. Il est là sur le chemin de la croix. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais la croix, ça ne veut plus rien dire. C'est un symbole. Parler de, c'est quoi pour vous la croix? Ah, la croix, oui. Ah, ben j'en ai une sur ma poitrine. Elle est en or, c'est la croix de ma grand-mère. La croix, ça, pour certains, la croix, c'est les rhumatismes. Ou si vous saviez le calvaire que j'ai. Je regrette, mais les rhumatismes, ce n'est pas vous qui avez choisi. C'est la vieillesse. Vous voyez, pour des chrétiens. C'est pour vous dire que pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas compris que... Aller jusqu'au bout, c'est accepter la croix. La croix, ça ne veut pas dire « Ah, il faut que je souffre tous les jours alors. » Puisque Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Mais ça peut arriver que l'on soit obligé, oui, que l'on soit mené à souffrir, ben, pour suivre le Seigneur. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver dans une entreprise? Eh bien, vous parlez de Jésus, ben, tout le monde va se moquer de vous parce que vous êtes chrétien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je me souviens la première fois où j'ai parlé de Jésus dans la boîte de nuit où je travaillais, eh bien, c'était 3 ou 4 jours après ma conversion, je n'ai pas voulu mentir, ils se sont tous moqués de moi. Vous savez, ça fait mal au cœur. Je savais très bien que... Je le savais en plus. Je le savais. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, ils se sont moqués de moi, ils se moqueront de vous. Alors ça ne veut pas dire, ah bon, chaque jour, je suis reporté la croix, alors je vais chercher chaque jour une occasion de souffrir. Mais alors, si vous pensez comme ça, ce n'est pas l'évangile. Mais ça peut se présenter, où on doit prendre position pour parler de Jésus-Christ. Ça peut se présenter où on est à souffrir, ou pas comme Jésus, mais quand même... Ah, ça peut se présenter. Et un chrétien qui n'a pas compris ce que c'était la croix ben, est un religieux, et il y en a beaucoup. Et j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Des chrétiens qui vont avoir peur de parler. Une chrétienne me dit, mais moi j'ai peur dans mon entreprise de parler de Jésus. L'autre fois on a parlé, tout le monde était pour l'homosexualité. Moi je n'ai pas osé me prononcer. Moi je pense que dans ce groupe, il y avait peut-être quelqu'un qui avait besoin d'entendre une chrétienne dire... Je prends position. Et oui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et vous savez que Dieu vous fortifiera et que Dieu vous bénira. Si quelqu'un veut me suivre, je crois que le service pour Dieu est une bénédiction, mais en même temps, cela demande de la souffrance parfois. Oui ou non? N'ayez pas peur de témoigner. Je me souviens de ce chrétien, lui en plus, qui faisait que des raisonnements. Il ne faisait que des raisonnements. Vous savez, ces genres de chrétiens qui sont tout le temps en train de donner des leçons, tout le temps des raisonnements. Et un soir, on avait fait une mission d'évangélisation, et il était là, au 4 ou 5e rang, et un chrétien du bureau où il travaillait, depuis 4 ou 5 ans, était là. Et il l'a vu. Et le lendemain, au bureau, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 4 ans qu'on travaille dans le même bureau, et tu ne m'as jamais parlé du Seigneur? Moi qui cherche la vérité, moi qui vis dans le désespoir, tu en parlais, tu blaguais, il lui a fait un de ses sermons, et tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Et hier soir, quand je t'ai vu, j'étais scandalisé. Et le gars, c'est lui qui est venu me le dire, le chrétien. Vous voyez, il avait peur de prendre position. Alors bien sûr, il y a ceux qui parlent tout le temps de Jésus, tout le temps de Jésus, tout le temps de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ah, moi, tu aurais dû venir à l'église. Vous voyez? Alors il y a ceux qui parlent trop, et qui sont des problèmes dans les entreprises, et il y a ceux qui ne parlent pas du tout, et qui eux aussi, bien sûr, créent un autre problème, c'est qu'ils ne peuvent pas donner à boire à ceux qui ont soif. Et je crois qu'on peut demander à Dieu, comme David, je demande à l'Éternel, vous pouvez demander de la sagesse à Dieu, est-ce que Dieu peut la donner? Est-ce que c'est écrit? Il écrit, oui, je ne sais pas témoigner, alors je ne parle pas, je ne sais pas, mais je n'ai pas de sagesse. Mais vous n'êtes pas le seul. Jésus a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et je crois que Dieu peut nous donner du bon sens, de l'intelligence, de la pédagogie, pour savoir comment répondre à quelqu'un. Où tu étais hier? Eh bien, hier, j'étais à l'église. Ce n'est pas la peine de dire, oui, mais toi aussi, tu devrais venir. Jésus est mort pour toi. Ne répondez qu'à une question. Ce n'est pas la peine de noyer des gens dans un flot de paroles. Répondez à une question, celle qu'on vous a posée. Et vous verrez comment Dieu vous bénira. De toute façon, la volonté de Dieu passe par la croix. Il y a des églises où on ne prêche plus la croix. J'aurai l'occasion certainement de revenir sur la croix. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Hier soir en priant, je pensais à expliquer tout à nouveau. Qu'est-ce que c'est le renoncement? Qu'est-ce que c'est un disciple? Car beaucoup de chrétiens, hélas aujourd'hui dans nos églises, ne savent pas que la volonté de Dieu passe par la croix. Alors je termine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trois choses. Une chose à désirer. Donc je veux demeurer en Christ. Je ne veux pas combattre par mes forces. Même s'il y avait une armée, je le fais. Je serai plein de confiance. Et si vous restez dans la présence de Dieu, c'est incontournable. Vous pourrez dire, moi aussi, je suis plein de confiance. Si vous n'êtes pas plein de confiance, c'est que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Ou alors vous le faites d'une manière superstitieuse, religieuse, comme ces pharisiens à qui Jésus a dit, mais ne soyez pas comme les pharisiens, comme les hypocrites, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez qu'il vous a entendu et faites-lui confiance. Et le Seigneur agira. Une chose à désirer, donc demeurer en Christ. Une chose nécessaire, demeurer à ses pieds. Vous savez, des fois, c'est bien de rester et de réfléchir. Moi, cet après-midi, je priais, je pensais à 3 versets bibliques, que je n'ai pas cités ce soir, mais il y avait 3 versets qui revenaient en boucle. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, un verset, vous êtes là dans la prière, et je me réjouissais d'avoir ces 3 versets
je ne sais pas, je crois que c'est le Saint-Esprit ou moi avec mon intelligence. De toute façon, que ce soit le Saint-Esprit ou moi, ça m'allait très bien. Parce que ces trois versets m'ont fortifié pendant cette heure que j'ai passée dans la prière. Et une chose à faire, comme l'apôtre Paul, il voulait triompher. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul a triomphé? Est-ce que vous croyez que quand il est mort, ça s'est bien passé pour lui? Hein? Pourtant, il a été décapité. Vous savez comment est mort l'apôtre Paul? Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on le sait. Comment l'apôtre Paul est mort? Je suis sûr qu'il est mort dans la victoire. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre dans la victoire. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, sachons les mettre à part, sachons même nous en débarrasser, sachons les considérer comme de la boue. Il y a des choses du monde qui sont charnelles, qui nous éloignent de cette bénédiction. En plus, on se fatigue, on s'épuise. Oui, je comprends pourquoi l'Ecclésiaste a dit « Dieu a fait les hommes droits et ils ont cherché bien des détours ». Et quand on est agité, quand on s'inquiète, quand on fait n'importe quoi, quand on combat contre la chair et le sang, on s'épuise, on fatigue les autres. Parce que s'épuiser, c'est pas bien. Mais fatiguer les autres, vous savez qu'on peut fatiguer les autres? Est-ce que vous le savez? Vous avez jamais dit quelqu'un qui vous a dit « tu me fatigues ». Ça vous est jamais arrivé, ça? Tu me... Enfin, je n'emploie pas le mot qu'on emploie aujourd'hui, mais il n'y a pas déjà « tu me... » Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Oui, quelqu'un l'a dit. Hein? Tu m'enivres. Et mes frères et sœurs, voilà pourquoi les gens sont fatigants. Parce qu'ils sont fatigués. Je me souviens un jour d'une sœur de l'église qui me disait « Monsieur Gault, vous êtes fatigué. Alors reposez-vous. Parce qu'un pasteur fatigué, il fatigue l'église. » Alors je dis « Merci. » Mais c'est vrai. Mais elle avait raison. Si vous lui demanderez, c'est Madame Delabre. Mais je ne dis pas son nom. Ouais. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que des fois, on se fatigue, on s'épuise. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on veut plaire à tout le monde. C'est pas vrai, ça? Je ne sais pas si on peut plaire à tout le monde. Ça, je ne suis pas sûr. Mais on peut chercher à plaire au Seigneur. Vous ne croyez pas? Et appliquez-vous à cela. Seigneur, est-ce ce que je fais, est-ce que ça te plaît? Je m'occupe des ados dans l'église. Est-ce que ça te plaît, Seigneur? Vous inquiétez pas, vous aurez son approbation ou sa désapprobation. Je fais le ménage dans l'église. Est-ce que c'est une bénédiction d'avoir la maison du Seigneur toujours propre? Ben oui. Demandez à Dieu. C'est ça le plus important. L'apôtre Paul l'a exprimé. Il faut que je lui plaise à lui. Alors je vais faire ce qu'il me demande. Et là, si je désire une chose, si j'ai compris qu'il y a une chose nécessaire, et si je fais cette chose de vouloir triompher, d'avoir la victoire, eh bien oui, mes frères et sœurs, toute chose en plus, toutes choses nous seront données par-dessus. Pas moi qui l'ai dit. Cette promesse, je pense que les hommes l'auraient faite pour plaire aux gens. Mais béni soit Dieu, c'est Jésus qui l'a faite. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Par ces trois choses, ça passe. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Je répète, toutes choses. Vous savez, le Seigneur, on est ses enfants. Il ne se moque pas de nous, le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas toutes ces choses parce qu'ils ont négligé la chose nécessaire, la chose à désirer ou la chose à faire. Fermons les yeux, mes frères et sœurs, et demandons au Seigneur cette grâce de nous retrouver à ses pieds. Et malgré le quelles que soient vos occupations, David était roi, et voyez, ça n'a pas empêché d'avoir cette communion avec le Seigneur. Notre Père, oui, tu nous as laissé ta parole, et nous croyons que tu as fait le cœur droit pour que les hommes comprennent simplement ta parole. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été compliqués et où nous avons cherché des détours et où nous avons combattu la chair et le sang. Nous croyons, Seigneur, que tu peux combattre pour nous. Nous croyons que tu te révèles et que tu nous montres ce que tu as à nous faire faire. Et nous croyons que nous pouvons aller jusque dans la victoire, jusque dans le triomphe total. Seigneur, oui, tu nous as laissé avec tant de simplicité la profondeur de ta parole. Tu savais qui serait ce soir dans ce lieu, et tu sais qui écoutera cette prédication d'une façon ou d'une autre. Alors Seigneur, que nous puissions avoir cette joie, oui, lorsque nous passerons devant toi, d'être dans un véritable triomphe, parce que nous aurons respecté la même chose que David, que Paul et que toi-même, tu nous auras enseigné. Que ton nom soit béni, Seigneur. Fais-nous grâce, afin que nous puissions jouir de toutes ces choses que toi seul donnes aux hommes qui se confient en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.